Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour moi et un grand honneur d'avoir été invité à assaisonner, si j'ose dire, le cours du professeur Petit. Bonjour à toutes et à tous également. Alors, j'ai quand même centré cet exposé beaucoup moins sur ma pratique diagnostique quotidienne, pédiatrique et adulte, que sur le thème de la journée qui est « je vous entends, mais je ne vous comprends pas ». Alors, pourquoi dans ce contexte-là investiguer la fonctionnalité du tronc cérébral, qui est cette petite structure à la base du cerveau, alors que c'est quand même au développement de nos hémisphères cérébraux et de notre cortex que nous devons d'avoir un mode de communication tout à fait unique et aussi sophistiqué que la parole. De même, quand on se concentre dans un restaurant bruyant pour comprendre la parole d'un locuteur donné, on finit par percevoir l'effort cognitif dont le professeur Petit vous a parlé. Et l'effort cognitif, c'est bien le cortex, c'est bien les hémisphères cérébraux. Mais c'est que les mécanismes mis en œuvre pour parvenir à comprendre la parole d'un locuteur cible, quand il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'autres locuteurs concurrents et qui ont été rassemblés dans une littérature sous le chapeau de l'effet ou le problème du cocktail party, qui dit bien ce qu'il veut dire, représente un cas particulier, particulièrement ardu, des mécanismes d'analyse de la scène auditive. Les mécanismes d'analyse de la scène auditive, ils décrivent comment, si on réfléchit un peu, quand nous sommes dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs sources sonores autour de nous, une voiture avec une sirène, la conversation de la personne qui nous intéresse, un chien qui aboie, tout ça envoie des ondes sonores qui se mélangent à l'atmosphère, qui arrivent mélangées dans nos oreilles, et c'est le mélange de ces différentes ondes sonores qui est envoyé au cerveau par le nerf cochléaire. Et qu'est-ce que nous percevons ? Nous percevons les images mentales de chacune de ces sources. Et non seulement nous identifions la source à travers ces ondes toutes mélangées, mais nous savons où est la source dans l'espace, et si elle se déplace, nous percevons si elle s'éloigne ou si elle se rapproche de nous. Donc, la charge neurocomputationnelle que le cerveau doit effectuée pour réaliser cette performance est énorme. Et elle a été comparée à l'image de quelqu'un qui serait au bord d'un lac, qui creuserait deux petites rigoles pour recueillir les variations de pression à la surface de l'eau, ce qui représente les messages acoustiques envoyés à nos deux oreilles. Et à partir de l'observation de ces ondes de pression acoustique, pourrait déduire ce qui se passe à la surface du lac et dans le lac. Donc il est évident que le problème est extrêmement important et depuis une dizaine d'années, il y a une série de travaux qui donnent à penser que ces mécanismes d'analyse de la scène auditive se préparent déjà très largement dans le tronc cérébral. Après tout, le plan d'organisation des voies auditives dans notre tronc cérébral est assez commun avec toute une série d'animaux qui communiquent par vocalisation également et qui ont les mêmes problèmes que nous. Quand dans un chorus de grenouilles, une grenouille femelle identifie le mâle avec qui elle va se reproduire à l'oreille, elle a ce type de problème et certainement pas un développement cortical comparable au nôtre. L'organisation du tronc cérébral montre un nombre de relais beaucoup plus important que ce qu'on connaît dans les autres voies sensorielles, la cochlée, le noyau cochléaire, le complexe de l'olive supérieure, le tubercule quadrijumeau inférieur ou colliculus inférieur, puis le relais thalamique et les projections vers le cortex. Et non seulement il y a beaucoup plus de noyaux, mais l'organisation fonctionnelle est littéralement extrêmement riche, doublée, comme le professeur Petit vous l'a rappelé, d'un système efférent qui part du cortex et qui vient moduler, influencer tous les niveaux intermédiaires de projection des afférences dans le tronc cérébral jusqu'à la cochlée, jusqu'aux cellules sensorielle elle-même, ou en tout cas sur le point de départ du nerf cochléaire, et jusqu'aux cellules ciliées externes qui conditionnent dans la cochlée le signal en l'amplifiant, en le filtrant, avant qu'il ne soit transmis aux cellules ciliées internes pour être envoyé par le nerf. La cochlée, là-dedans, ne fait qu'un travail fondamental qui est analytique, de filtrer les signaux complexes dans différentes bandes de fréquences et d'envoyer cette information de nature spectro-temporelle dans chaque canal fréquentiel, donc chaque sortie de filtre cochléaire, on a une fluctuation temporelle du signal qui est envoyé en parallèle au cerveau et traité dans le tronc cérébral. Et donc chaque canal fréquentiel transmet la séquence des événements auditifs, un événement auditif étant un événement acoustique qui a un début et une fin identifiable. Dans les mécanismes d'analyse de la scène auditive, on décrit différentes règles que nous partageons avec les animaux et qui permettent de regrouper les ondes sonores qui proviennent de la même source auditive et de séparer celles qui proviennent de sources auditives différentes. Et ces règles sont dites primitives parce que, justement, nous les partageons avec d'autres animaux et qu'il s'agit de la manière dont l'information ascendante est traitée. Et comme il a été rappelé, un des mécanismes des règles particulièrement efficaces est la localisation de la source sonore dans l'espace, qui est obtenue, en tout cas pour le plan horizontal, déterminé l'azimut, par comparaison des moments d'arrivée entre les deux oreilles, par comparaison également, ça dépend des fréquences, des intensités entre les deux oreilles, avec une fonction très claire qui montre le délai entre les deux oreilles en fonction de l'angle avec laquelle la source émet par rapport au plan sagittal de l'individu. Et vous voyez que pour une source maximalement latéralisée, 90 degrés, la différence est de un peu moins de 700 microsecondes, 7 dixièmes de milliseconde. Ce qui veut dire qu'on a besoin pour cela d'une précision temporelle dans le système auditif, qui est extrêmement élevée. Effectivement, dans le tronc cérébral, au niveau de l'olive supérieure, du complexe olivaire supérieur, qui est un ensemble de noyaux, on trouve dans le noyau médian des neurones qui sont accordés à des délais spécifiques, des moments d'arrivée du son, des différences de délai entre les deux oreilles. Et cette spécificité peut aller jusqu'à des mesures de délai de 20 à 30 microsecondes. Donc vraiment une précision très importante. Donc là, se prépare dans le tronc cérébral l'extraction d'un paramètre qui est calculé et qui va nous donner l'angle sous lequel une source sonore donnée émet. Une autre règle primitive est celle de l'harmonicité, parce que dans la nature, beaucoup de sources naturelles émettent des fréquences qui sont en relation harmonique avec elle. Et donc, cette règle générale qui dépend statistiquement ce qu'on rencontre dans notre environnement sonore a été en quelque sorte internalisée dans le fonctionnement du système auditif et va faire que toutes les fréquences qui sont en relation harmonique entre elles vont avoir tendance à être attribuées à la même source. C'est comme ça que dans une situation de cocktail party, si vous avez deux locuteurs qui ont la même fréquence fondamentale ou qui est très proche, et donc leurs harmoniques sont très proches l'un de l'autre, il est très difficile de distinguer l'un de l'autre. Si, au contraire, vous avez un homme et une femme dont les fréquences fondamentales sont en moyenne de 100 Hz et de 200 Hz, les harmoniques sont décalées d'autant et il est beaucoup plus facile de repérer le patron harmonique de l'une et de l'autre et de se focaliser sur celui des locuteurs qui nous intéresse. Alors ça, c'est une démonstration qui, en général, ne rate jamais, quelle que soit l'acoustique de l'environnement, donc je peux me permettre de la faire. Donc ici, nous avons un son complexe qui est formé d'une série d'harmoniques, avec un élément fréquentiel qui est décalé en fréquence. Et donc, dans le cas supérieur, on entend un seul son complexe, on perçoit une seule source. Et lorsque le décalage de fréquence d'une des harmoniques, qui du coup n'est plus harmonique, n'est plus en relation harmonique avec les autres, atteint un minimum de 4 à 6%, on entend le son précédent et très clairement un son pur, l'ex-harmonique décalée, qui s'isole perceptivement comme une autre source distincte. Donc c'est tout à fait frappant. Une autre règle primitive de groupement, c'est qu'il y ait une modulation temporelle commune dans les différents signaux, dans les différentes bandes de fréquences. Ici, on a simulé la sortie d'une série de filtres cochléaires, 31 filtres allant de 200 à 2000 Hz, avec deux sources. Une source qui émet les fréquences de 300, 520, 875 et 1450 Hz de manière stable au cours du temps, et une deuxième source qui module trois fréquences à 25 Hz, donc l'amplitude passe d'un maximum à 0 25 fois par seconde, fréquences de 400, 675, 1125 Hz. Dans les filtres qui laissent passer le 300 Hz à la sortie de la cochlée, un signal continu, dans les filtres qui laissent passer qu'à 400 Hz, vous avez un signal modulé en amplitude, etc., etc. Et donc, il est assez facile pour le système nerveux, parce qu'encore une fois, dans la nature, c'est comme ça, les sources qui modulent en amplitude leurs fréquences les modulent toutes de la même manière, de dire, j'ai quatre fréquences qui sont pas modulées, qui sont stables, je les regroupe dans la même source, j'ai trois fréquences qui sont modulées de la même manière, je les regroupe dans une source distincte. Évidemment, dans ce cas de figure, il se pourrait qu'il y ait trois sources, qui est en réalité une source C qui émet 875 et 1450 et que la source A n'émet que les trois fréquences intermédiaires. À ce moment-là, il y a fort à parier que ces deux sources A et C soient situées ailleurs dans l'espace et c'est sur base d'une localisation différente que nous allons les distinguer. Donc vous voyez le principe de fonctionnement. Pour être complet, il faut dire que, en tout cas chez l'humain, ces mécanismes se complètent de mécanismes dits liés au schéma, et qui de nouveau sont liés à l'expérience, mais à l'expérience de vie de l'individu, et parfois à l'expérience à très très court terme, et qui vont nous permettre, c'est surtout en rapport signal-bruit défavorable, dans le bruit, qu'on va mettre en évidence ces mécanismes. Au cours d'une conversation, il y a un gros éternuement qui vous masque un mot, vous n'avez pas en réalité perçu ce mot, mais vous allez comprendre la phrase sans problème, et vous n'allez pas même prendre conscience que le mot a été masqué parce que, en fonction de la connaissance du contexte, du vocabulaire, des règles de syntaxe, vous allez inférer quel est le mot manquant. Alors, ce tronc cérébral est organisé en parallèle dès le nerf cochléaire. On voit la même information qui est envoyée aux trois grandes divisions du noyau cochléaire. Et encore, dans ces divisions, il y a plus de 50 types de neurones qui traitent l'information différemment. De là, c'est envoyé plus haut dans le tronc cérébral par trois grandes voies de projection qui donc amènent de l'information avec des paramètres différents qui ont été calculés dans le tronc cérébral, des stries acoustiques dorsales, ventrales, antérieures, dont certaines vont vers le complexe olivaire, dont d'autres montent directement plus haut dans le tronc cérébral. Donc effectivement, il se passe un tas de choses au niveau computationnel dans les voies auditive du tronc cérébral. Et le tubercule quadrigémo inférieur, colliculus inférieur, dont le professeur Petit vous a déjà pas mal parlé aujourd'hui, est une voie de convergence tout à fait majeure. Toutes les afférences passent par le colliculus inférieur avant de monter vers le thalamus auditif. Le colliculus inférieur, là, anatomiquement, il est là, donc en haut et à l'arrière du tronc cérébral. Il a été beaucoup étudié par les physiologistes de l'audition chez des animaux spécialistes de l'audition. C'est en étudiant le fonctionnement du système auditif chez des animaux qui ont des performances particulières qu'on a évidemment le plus de chances de comprendre comment ils fonctionnent. Les chouettes effraies qui sont des chasseurs nocturnes qui repèrent leur proie initialement la nuit dans le noir à l'oreille et qui doivent avoir des performances de localisation des sources sonores tout à fait précises, ou les chauves-souris qui font de l'écholocation, qui envoient des ultrasons, elles reçoivent l'écho en retour et elles se déplacent dans le noir ou poursuivent leur proie grâce à cette analyse des échos revenus. Eh bien, dans le tubercule quadrijumeau inférieur de ces animaux, on a trouvé des neurones accordés à des angles, des azimuts d'émission de sources dans l'espace. Donc, déjà là, une perception hétéromorphique, où à partir de délai d'arrivée entre les deux oreilles au niveau de l'olive, on a calculé un paramètre qui est la différence et puis qui prépare une perception d'une autre nature qui est l'endroit de l'espace où la source a émis ces informations. Mais on trouve aussi des neurones spécialisés pour les différences d'intensité, pour la mesure de la durée, pour les modulations de fréquence, les modulations d'amplitude, et commençant à préparer la compréhension de la parole, des combinaisons de fréquences ou des combinaisons de délais temporels entre certains éléments acoustiques, donc paramètres qui sont critiques pour la compréhension de la parole. Et effectivement, pour la parole, on trouve aussi dans le tubercule quadrijumeau inférieur des informations intéressantes chez le cochon d'Inde. Quand on utilise des sons de parole humains, ga, da, ba, et qui se distinguent, le seul élément acoustique qui les distingue est la trajectoire de fréquence du deuxième formant. Donc on a ici la partie qui suit l'explosion de la consonne. Et pendant 20 à 25 millisecondes, vous avez le deuxième formant, donc ici on a les formants, la partie stable de la voyelle, du A, qui est tout à fait commune aux trois sons. Et là, vous avez une trajectoire descendante, ici un peu moins oblique, et là, une trajectoire montante. Et ce sont donc ces différentes trajectoires de cette bande fréquentielle, ce formant-là, qui fait qu'on perçoit un GA, un DA ou un BA. Alors, les spectrogrammes, enfin les scalogrammes ici différentiels entre la comparaison GABA, GADA ou DABA montre que c'est effectivement dans cette partie initiale que se trouve la différence, et les neurones, certains neurones du tubercule quadrijumeau inférieur sont tout à fait sensibles à cette différence et donc codent cet élément, cette variation d'éléments acoustiques qui est critique pour la reconnaissance de la parole. Donc il y a bien un rôle tout à fait important de préparation de la compréhension de la parole dans le tronc cérébral. Chez l'homme, de manière psychoacoustique, on peut quantifier, évaluer l'efficacité notamment de la localisation dans l'espace par une épreuve qui s'appelle le démasquage binaural, où on va donc mesurer le seuil d'un son pur qui est donné dans les deux oreilles, puis on va le masquer avec un bruit délivré à l'identique dans les deux oreilles. À cause du bruit de masque, le seuil de détection de ce seuil, de ce son pur, va s'élever. Et puis si l'on déphase, donc si on change la phase, c'est-à-dire qu'on introduit un délai dans le décours temporel du signal entre les deux oreilles, on observe un démasquage, une amélioration du seuil de détection du son pur, amélioration qui peut tout à fait dépasser 10 dB, atteindre 15 décibels, ce qui est tout à fait considérable comme amélioration de la détection. Eh bien, dans, de nouveau, le tubercule quadrijumeau inférieur du cochon d'Inde, ici, on peut trouver, dans cette configuration expérimentale, des neurones dont le rythme de décharge, dans la condition où nous avons le bruit noise et le signal S qui sont en phase. Il faut attendre une certaine intensité avant de voir s'élever le rythme de décharge, signalant que le stimulus a été détecté. Si on met le signal en opposition de phase, comme ici, vous voyez une élévation du rythme de décharge qui commence 13 dB plus tôt. Donc on a un équivalent de l'effet de démasquage binaural dans ces neurones. Et en ce qui concerne la règle d'harmonicité dont je vous parlais chez le chinchilla cette fois-ci, on trouve également des neurones qui, quand vous avez un stimulus de type harmonique qui vous donne la perception d'une seule source sonore, le neurone ici qui est l'espacé la plupart de ses fréquences, après un pic de décharge à l'allumage du son, reste tout à fait stable. Si on zoome sur une partie de cette courbe, on ne voit rien de spécial. Si on crée un effet d'isolement d'une deuxième source parce qu'on décroche de l'harmonicité avec un composant, vous voyez que l'activité du neurone change de manière radicale et signale donc effectivement l'existence d'une source indépendante. Donc ces mécanismes-là sont bien présents dans le tronc cérébral. Il faut encore ajouter que les sons complexes, et donc les sons de parole, quand ils passent dans les filtres cochléaires, à la sortie des filtres cochléaires, sont caractérisés par deux rythmes de variation au cours du temps. Un rythme relativement lent qu'on appelle l'enveloppe, parce qu'il démontre comment globalement l'enveloppe du signal varie au cours du temps. Et une variation beaucoup plus rapide qu'on appelle la structure temporelle fine, qui représente en fait la variation acoustique, la variation de pression acoustique instantanée. Et les psychoacousticiens se sont intéressés ces derniers temps au rôle de la partie enveloppe du signal et de la partie structure temporelle fine. Il y a tout à fait la possibilité, grâce à des transformées mathématiques, d'isoler l'une de l'autre. Et quand on présente l'enveloppe seule, eh bien l'enveloppe seule, le signal d'enveloppe seule sans la structure temporelle fine, permet de comprendre la parole dans le calme dès qu'on a la sortie de quatre filtres, ce qui est tout à fait remarquable et ce qui explique que les sujets implantés cochléaires, qui n'ont à leur disposition qu'une poignée de filtres actifs en même temps et qui ne transmettent dans la plupart des cas que l'enveloppe du signal, peuvent comprendre tout à fait la parole dans le calme. Par contre, dans le bruit, ils sont terriblement affectés parce que, entre autres, il leur manque la structure temporelle fine. Structure temporelle fine qui est effectivement importante pour comprendre la parole dans le bruit, pour participer à la localisation spatiale d'une source et pour les musiciens, pour identifier les mélodies. On peut construire des chimères avec l'enveloppe d'un son de parole et la structure temporelle fine de l'autre grâce aux moyens informatiques et mathématiques modernes. Et on constate quand on fait ça que l'enveloppe fournit la signification de la parole du signal d'origine et la structure temporelle fine, la position spatiale. L'enveloppe et la structure temporelle fine apparaissent déjà sous forme d'un code temporel, c'est-à-dire du rythme de décharge des potentiels d'action, dès le nerf cochléaire. Si vous stimulez avec un son pur, vous voyez ce qu'on appelle le verrouillage de phase, c'est-à-dire les neurones qui, de présentation en présentation, déchargent à un moment dans le temps qui est aligné sur un endroit particulier du cycle du stimulus. Et c'est vrai pour la structure temporelle fine, vous voyez ici les pics dans les histogrammes de décharge, mais c'est vrai aussi pour l'enveloppe d'amplitude qui est reproduite par l'intervalle entre les regroupements de pics individuels dans l'histogramme temporel de décharge du nerf auditif. Et dans le noyau cochléaire, nous avons un travail d'affinage des représentations de l'intensité, de la fréquence, mais aussi du temps. Et je vous disais, la précision temporelle est indispensable. Elle est déjà très grande à la sortie de la cochlée, grâce à la synapse en ruban qui est spécialisée pour maintenir une grande précision temporelle. Elle est encore affinée dans le noyau cochléaire. Donc tous ces éléments dans le fonctionnement du noyau cochléaire sont importants pour la compréhension de la parole dans le bruit. Mais chez l'humain, il est évidemment exclu d'aller mettre des électrodes dans le tubercule quadrijumeau inférieur, comme on le fait chez les animaux experts, J'ai toujours le souvenir vivace à l'esprit, il y a une vingtaine d'années, lors d'une réunion de chercheurs et de cliniciens, d'un jeune chercheur enthousiaste qui apostrophait le neurochirurgien de son institution en disant « Mais toi qui as très souvent des nerfs cochléaires tout à fait dénudés, accessibles, est-ce qu'on ne pourrait pas aller y mettre une microélectrode pour voir un peu ce qui se passe chez l'humain ?» Et un des sages du groupe lui a dit « Je vous déconseille de faire ça, parce que si jamais par malheur vous la perdiez, cette électrode, la seule personne capable de la retrouver serait à coup sûr un avocat. » Donc, effectivement, voilà une chose qu'on ne peut pas faire, mais on va utiliser les potentiels évoqués. Donc, le professeur Petit vous a parlé, potentiels évoqués qui sont obtenus par électrode de surface, sans devoir du tout être invasif, et qu'on donc peut appliquer aussi bien chez les nouveau-nés, les prématurés, que nos aînés presbyacousiques. Et on va utiliser aussi des experts chez les humains, les musiciens, parce que la perception de la musique est beaucoup plus exigeante que la perception de la parole, et donc les musiciens professionnels ou amateurs qui pratiquent de manière régulière ont beaucoup d'avantages et sont devenus des experts de la perception, on en a aussi fait allusion tantôt, et les locuteurs de langue à ton. Langue à ton dont le prototype est le chinois mandarin, pas vraiment ces deux-là qui avaient gardé l'accent bruxellois, mais le chinois mandarin est quelques autres langues en Afrique, en Asie, mais numériquement, c'est le chinois mandarin qui est évidemment le plus représenté, dans lequel un mot très bref, parfois un phonème, yi, ma, va changer complètement de signification en fonction de la manière dont on fait évoluer la fondamentale glottique en cours de prononciation. Et donc, là aussi, ces locuteurs de langue à ton ont dû, dès leur jeune âge, quand ils ont appris la langue, et développer des mécanismes beaucoup plus précis que les nôtres pour suivre l'évolution de la prosodie, de la fondamentale glottique dans des mots extrêmement brefs. Nous, ce qu'on peut faire, c'est par exemple dire dans la phrase « tu viens ce soir », prosodie neutre, c'est une affirmation. Si on dit « tu viens ce soir » en faisant monter la prosodie en fin de phrase, ça devient une question. Ça change effectivement le sens de la même séquence des mots. Mais dans les langues à ton, c'est beaucoup plus exigeant parce que la variation est beaucoup plus brève et peut être dans un sens et puis dans l'autre au cours d'un même phonème extrêmement bref. Donc, les potentiels évoqués, le professeur Petit vous en a reparlé aussi. Donc, très brièvement, parce qu'on en aura besoin tantôt, sur une échelle de temps logarithmique, de manière à bien équilibrer les représentations, on a les potentiels précoces, les ABR, Auditory Brainstem Response, dont on a parlé tantôt, provenant du nerf cochléaire et du tronc cérébral. Les potentiels de moyenne latence, projection thalamocorticale, et puis après les réponses corticales. Et ces potentiels précoces, donc précoces de courte latence, avec les ondes 1, 2, 3, 4, 5, 6 éventuellement, sont donc dits les potentiels du tronc cérébral, parce que c'est de là qu'ils viennent. Et comme le professeur Petit vous a rappelé, globalement, on a une progression. Une progression, quand on suit les différentes ondes, on monte à travers les différents relais du tronc cérébral. C'est, à part le nerf cochléaire, on ne peut pas dire qu'une structure corresponde à une onde, mais enfin, on suit la progression de l'information. Alors, ces potentiels du tronc cérébral ont beaucoup d'avantages parce qu'ils sont résistants au sommeil et à la sédation, donc on peut les appliquer chez des sujets endormis, spontanément ou activement par l'aide d'une médication, voire d'un anesthésiste. Ils maturent rapidement. On peut les enregistrer chez les bébés très maturés. À 2 ans, ils ont déjà une structure d'adulte. Et donc, ils permettent de faire l'évaluation fonctionnelle de l'audition et globalement du tronc cérébral en pédiatrie, le diagnostic des pertes d'audibilité, et globalement de la qualité de la synchronisation dans le nerf cochléaire, c'est la neuropathie auditive dont je vais vous redire un mot, mais très, très, très brièvement. Donc ces potentiels précoces évoqués par le clic l'impulsion acoustique, permet essentiellement de faire le tri entre plusieurs catégories diagnostiques principales. Vous n'avez pas de réponse du tout, y compris le nerf cochléaire, sauf le microphonique cochléaire. La réponse électrique des cellules ciliées externes, ben, c'est la signature de la neuropathie auditive avec l'audiogramme du sujet qui entend tout à fait le clic. Hein, vous voyez que son seuil dans les fréquences du clic est tout à fait normal. Et le clic est perçu et pourtant, il n'évoque rien. C'est la désynchronisation majeure. Vous avez un souci ?
J'ai branché le son.
Ah, d'accord. Je reviendrai à la démo tantôt en même temps. Merci. Et... Donc, c'est le tableau tout à fait typique de la neuropathie auditive. Par contre, dans ces tableaux d'enfants qui ont des troubles d'audition dans le bruit, révélés de manière typique à l'école, hein, dans le bruit des classes de cours, qui ont un audiogramme normal et qui ont des potentiels précoces tout à fait normaux, mais ça orientera plutôt vers cette très, très vaste catégorie que sont les troubles du traitement du système auditif central, pense-t-on, donc des enfants qui auraient un déficit dans les mécanismes d'analyse de la scène auditive, les mécanismes d'écoute dans le bruit, mais avec une audition périphérique normale ou peut-être une synaptopathie cochléaire, une perte auditive cachée, même si le terme n'est pas idéal. Ou alors, vous avez les lésions du tronc cérébral, un microphonique cochléaire, une onde 1, et puis ici, dès qu'on entre dans le tronc, il y a peut-être une onde 2 là, mais c'est gravissime. Les lésions du tronc cérébral qui, en général, s'accompagnent de symptomatologies neurologiques évidentes, pas toujours, mais enfin, le plus souvent. Donc, ça permet de faire le tri entre quelques grandes catégories, mais comme on va le voir, pas de révéler des atteintes subtiles qui expliqueraient les difficultés de compréhension dans le bruit chez pas mal de populations. Alors néanmoins, on a utilisé ces potentiels précoces depuis longtemps pour essayer d'évaluer ces mécanismes que je vous ai décrits, et notamment le composant d'interaction binaurale, ou BIC, Binaural Interaction Component. L'idée, c'est de stimuler une oreille et puis l'autre et d'obtenir les réponses monaurales, potentielles précoces, d'en faire la somme arithmétique dans le calculateur, et puis de stimuler les deux oreilles à la fois et d'enregistrer la réponse binaurale, et puis de soustraire la réponse binaurale de la somme des deux réponses monaurales, en se disant s'il n'y a pas d'interaction, les champs électriques étant se combinant de manière, s'additionnant de manière linéaire, s'il n'y a pas d'interaction entre les deux, je n'aurai pas de différence. Et chez beaucoup d'animaux, chez l'homme également, on trouve effectivement une onde différentielle à hauteur de latence de la cinquième et un peu après, donc l'onde différentielle principale étant appelée DN1, peu importe, et étant donc le composant d'interaction binaurale qui témoigne du fait que d'envoyer deux stimuli dans les deux oreilles à la fois crée une modification dans l'électrogenèse au niveau du tronc cérébral. Il y a une littérature relativement abondante sur ce composant d'interaction binaurale qui a lui aussi l'avantage d'être précoce. Chez les bébés de quelques semaines, on le retrouve. Il est présent chez quasi tous les normaux, mais pas tous, ce qui est un peu embêtant, mais peut-être lié à des détails méthodologiques. Il a une fonction d'amplitude qui dépend d'un éventuel décalage de moment d'arrivée entre les deux stimuli qu'on va donner entre les deux oreilles, ou de différence d'intensité entre les deux oreilles, ce qui fait penser à certains qui traduisent réellement le calcul de l'azimut d'une source sonore, ce qui n'est pas tout à fait avéré. La littérature pathologique montre que ce composant d'interaction à l'échelle de population normale et pathologique comparée est réduit chez les enfants qui ont traîné avec des pertes d'oreilles moyennes chroniques et dont l'audition a fluctué pendant longtemps entre les deux oreilles et qui n'ont pas bien pu construire leur mesure équilibrée entre les deux oreilles. Dans les troubles du traitement central de l'audition, avérés ou les enfants qui sont à risque parce qu'ils sont nés dans des familles où cette pathologie existe, et elle a une composante héréditaire, avec le vieillissement, et bien entendu dans les lésions du tronc cérébral, et en particulier de la protubérance. Bon, maintenant, quand on regarde la littérature de ce composant, ça fleure un peu la vieille dentelle. 40 ans après les premières publications, il y a en pratique très peu d'applications sur le terrain. Le générateur est toujours incertain, même si une majorité de publications parle du complexe univers supérieur noyau médian. Une étude qui a été faite, une étude comparée chez différents animaux qui ont des tailles de noyaux médians différentes, certains n'en ayant pas, mais ayant le noyau latéral, montre qu'il y a un composant d'interaction binérale chez toutes, que donc ça pourrait être le noyau latéral. Est-ce qu'il s'agit vraiment déjà d'un calcul de spatialisation ou d'une simple intégration binaurale ? Ça reste discuté, notamment parce que chez les animaux avec des toutes petites têtes, on peut mesurer un composant d'interaction binaurale tout à fait en dehors de l'enveloppe de délai qui crée un effet de latéralisation, parce que le temps qu'il faut pour aller d'une oreille à l'autre est largement dépassé par le délai entre les deux oreilles qui continue à évoquer un composant binaural. Il est aussi un peu décrié par sa grande variabilité intra- et inter-individuelle, mais ça, c'est probablement résolvable par des améliorations méthodologiques. On ne va pas entrer dans les détails. Et relativement récemment, il a connu un regain d'intérêt parce que, je vous l'ai dit, les sujets implantés cochléaires ont très souvent, systématiquement, d'importantes difficultés dans le bruit, et qu'en se mettant à implanter les deux oreilles, on espère restaurer une certaine forme de bilatéralité, améliorer la comparaison entre les deux oreilles et améliorer l'audition dans le bruit. Et on peut se trouver avec des sujets implantés qui ont, parce qu'ils ont été implantés en séquences différées, des électrodes différentes, ou parce que quand le chirurgien enfonce son électrode, il n'est jamais maître de l'endroit exact de jusqu'où l'électrode va pouvoir s'enfoncer, et donc comment les différentes électrodes implantées vont être appariées l'une à l'autre entre la gauche et la droite. Or, pour l'interaction binaurale, il faut quand même que les zones fréquentielles de l'oreille droite et de l'oreille gauche correspondent relativement correctement pour que l'interaction se fasse, ce qui est démontré ici, encore une fois, dans le tubercule quadrijumeau, je crois, du cochon d'Inde, où quand on enfonce une électrode, ben, plus on descend, plus on a des neurones qui sont accordés à des fréquences élevées. On implante cet animal et on regarde comment, quand je stimule avec une électrode et avec l'autre, donc ici l'électrode droite en rouge est fixe et on fait varier l'électrode gauche qui est stimulée et on regarde quelle est, dans la dimension de profondeur du tubercule quadrijumeau, la courbe de réponse à l'une et l'autre électrode, ce qui permet de calculer la distance neuronale, la distance qui sépare le maximum de réponse entre l'activation par les deux électrodes, et on voit que c'est quand les deux électrodes activent la même bande de fréquence que on a la distance neuronale minimale, hein, ce qui est logique. Donc, distance neuronale minimale, et c'est celle-là, cette combinaison-là, qui donne le composant d'interaction binaurale maximale. Donc, on peut espérer se servir de cette technique pour, une fois qu'on a mis les électrodes, les apparier entre elles, envoyer les signaux correspondant à telle et telle fréquence vers les électrodes qui correspondent le mieux en termes de composants d'interaction binaurale, ce qui a été fait par certains chercheurs. Et donc, vous voyez que en fonction de la paire d'électrodes qui est activée, on mesure le maximum d'interaction binaurale et on voit qu'il résiste quand même relativement bien à des décalages, qu'il faut des décalages importants pour qu'ils disparaissent, même si le maximum d'amplitude de ces fonctions est corrélé avec les performances de localisation, encore grossières, mais enfin pas nulles, dont bénéficient ces patients. Donc c'est, à ce stade-ci, relativement décevant, sans doute parce que les champs électriques qui sont émis par les électrodes de l'implant cochléaire sont très larges. Les électrons vont là où ils veulent en fonction des chemins de basse impédance qu'ils rencontrent et la stimulation électrique, on n'est pas très maître de l'endroit d'où elle diffuse. Quand il y a des travaux de développement de nouvelles formules d'implantation, notamment par des microdiodes laser qui iraient stimuler de manière beaucoup plus focale le nerf cochléaire en évitant cet aléa, et à ce moment-là, cette technique pourrait tout à fait devenir intéressante pour améliorer donc la situation. Mais donc, le composant d'interaction binaurale tel que mesuré par les potentiels précoces ne donne pas lieu à énormément d'applications cliniques. Une alternative intéressante a été développée par certains, c'est la modulation de phase interorale. Un stimulus qui est un son pur, qui est une porteuse, qui est modulée en amplitude, et la porteuse, on va, au moment où la modulation d'amplitude la fait tomber à zéro, changer sa phase, de manière qu'elle reparte avec une autre phase, et on va créer ainsi une différence de phase entre les deux oreilles. Donc ici, vous avez l'oreille gauche qui reçoit le son en premier, puis c'est l'oreille droite, puis c'est de nouveau l'oreille gauche, puis c'est l'oreille droite, et cette modulation au niveau du percept crée une latéralisation de l'image du son dans l'espace. Et ce type de réponse modulée en amplitude permet d'enregistrer un potentiel évoqué dit stationnaire, parce qu'il est... Il dure ce que dure le long stimulus, il est à l'équilibre avec le décours temporel du stimulus et on a là donc une réponse qui suit la fréquence de modulation avec dans l'analyse spectrale un pic d'énergie à la fréquence de modulation, 40 Hz ici en l'occurrence, mais aussi un pic d'énergie à la fréquence de bascule entre la gauche et la droite. Donc au moment où l'image de la source sonore bascule d'un côté à l'autre, il y a une activité qui se greffe sur ce potentiel stationnaire et qui est détectable dans la transformée fréquentielle du signal. Alors en l'occurrence, et je ne connais pas encore d'application au niveau du tronc cérébral, ces réponses à 40 Hz proviennent du cortex, mais on peut espérer obtenir un effet similaire avec des fréquences de modulation plus élevées qui permettraient d'explorer les réponses du tronc cérébral. Ces réponses stationnaires, leur source, leur origine, dépend effectivement de la fréquence de modulation. 40 Hz, c'est le cortex et ça donne de grandes réponses. À 100 Hz et au-delà, le cortex ne répond plus. C'est le tronc cérébral qui enclenche et qui émet des réponses plus faibles, mais tout à fait enregistrables. Et donc, les avantages de cette technique qu'on espère pouvoir étendre au tronc cérébral, c'est qu'elles ont une amplitude qui est accordée à la valeur de déplacement maximum, plus ou moins à 45 degrés, c'est basculer de la droite vers la gauche. C'est, comme je vous le disais, une réponse d'origine corticale, et donc si on veut notamment travailler en pédiatrie chez des enfants endormis, il est impératif de faire glisser la méthode vers les réponses du tronc, et c'est ce à quoi on travaille. Et indéniablement, en matière d'électrophysiologie, de compréhension de la parole dans le bruit, la vedette dans la littérature actuelle, c'est la Frequency Following Response, dont je n'ai jamais trouvé de traduction officialisée en français, que nous allons donc appeler la FFR, en francisant l'acronyme anglo-saxon. Et vous voyez que le nombre de publications depuis sa découverte dans les années 60-1900 est en augmentation. Comme son nom l'indique, vous avez ici un stimulus qui est un son pur, eh bien, la FFR reproduit la fréquence du son pur avec un ray spectral qui est vraiment la fréquence du stimulus et qui prédomine dans les basses fréquences, maximum vers 500 Hz et qui disparaît au-delà de 1000 à 1500 Hz. C'est une réponse qui, elle aussi, dépend du verrouillage de phase dont je vous ai parlé tantôt. Cette FFR est issue du tronc cérébral, la pensée dominante dans la littérature dit tubercule quadrijumeau inférieur, colliculus inférieur, mais il pourrait y avoir des générateurs plus précoces ou plus tardifs selon l'état veille-sommeil, selon les fréquences de stimulus, selon les détails d'enregistrement. Donc ça n'est pas tout à fait tranché, cette affaire-là. Ce sont des réponses très faibles, de moins d'un microvolt, donc quand même relativement délicates à obtenir, avec une série de propriétés qui en font un outil tout à fait intéressant pour étudier la compréhension de la parole dans le bruit. Première propriété, c'est qu'elle reproduit le codage temporel et de l'enveloppe et de la structure temporelle fine. Voilà un signal qui comporte une structure temporelle fine et une enveloppe. Et voilà la réponse obtenue par ce signal-là tel qu'il est et puis ce signal-là en opposition de phase. Et vous voyez que l'enveloppe ne change pas, tandis que la structure temporelle fine s'inverse pour des raisons physiologiques. On ne va pas entrer dans les détails, mais ce qui fait que lorsque vous additionnez ces deux types de réponses obtenu par la réponse au même stimulus simplement inversé en polarité acoustique, en opposition de phase, vous éliminez la structure temporelle fine et vous isolez l'enveloppe, un peu comme la transformée de Hilbert que je ne vous ai pas nommée tantôt, mais qui extrait l'enveloppe des sons complexes. Si au contraire vous faites la différence entre ces deux signaux, vous éliminez ce qui est commun, c'est-à-dire l'enveloppe, et vous extrayez la structure temporelle fine. Deuxième propriété, la FFR encode en haute fidélité des éléments critiques pour la compréhension de la parole. Donc, on a construit ici quatre voyelles un continuum de quatre voyelles allant du U au A, simplement en faisant bouger la valeur fréquentielle du deuxième formant. Donc cette bande de fréquence, le deuxième formant de la voyelle, chaque fois s'élève d'une quantité égale, et ce genre de manipulation du stimulus donne lieu à ce qu'on appelle la perception catégorielle, qui est assez caractéristique de la parole, où de part et d'autre d'une frontière de valeur de position fréquentielle, on ne perçoit que des U, et de l'autre côté, on ne perçoit que des A. Il y a une énorme réduction de la perception en termes phonologiques par rapport à la variabilité acoustique des stimuli qui sert à justement réduire cette énorme variabilité acoustique dans la manière dont nous produisons les sons vocaux. Et bien, quand on enregistre la FFR à ces quatre voyelles, qui sont perçus de manière catégorielle, ces deux-là comme un U et ces deux-là comme un A, et on enregistre cette FFR, on la transforme en fichier son, ce qu'on appelle les sonifications, et on fait entendre le son issu de la FFR enregistrée à des sujets humains, des experts en l'occurrence, des musiciens, et vous voyez que leur taux de perception en fonction du type de voyelle est pas du tout continu, mais tout à fait catégoriel, avec une frontière qui reproduit ce que font psychoacoustiquement les sujets tout venant. Donc la FFR contient une information que de l'information acoustique d'une manière extrêmement précise, extrêmement fidèle par rapport à ce qui est critique pour comprendre les sons de parole. Propriété numéro 3, elle résiste tout à fait raisonnablement bien au bruit. Ici, on a aussi travaillé avec des experts, des locuteurs du mandarin, et on a fait entendre donc le yi avec une évolution ascendante de la fréquence fondamentale à différents niveaux d'intensité, trois niveaux d'intensité. On a enregistré la FFR à ces stimuli et étudié l'évolution à ces différents niveaux de rapport signal-bruit de différents paramètres. L'erreur sur la fréquence de détermination de la reproduction de la fréquence cible, et vous voyez que tout reste bon jusqu'à environ un rapport signal-bruit de 0 décibel, et puis les choses se détériorent. Idem pour l'erreur sur la pente, donc l'évaluation de l'évolution de la fréquence fondamentale, c'est de nouveau à partir de 0 décibel de rapport signal-bruit que le signal FFR se détériore, et idem pour la précision avec laquelle, tout au long de l'évolution, la fréquence fondamentale est suivie. C'est à partir de 0 décibel que ça chute. L'amplitude globale est plus variable. Mais donc, on a une réponse qui résiste raisonnablement bien à différents niveaux de bruit et qui donc peut servir d'évaluation de la résistance du codage des sons de parole par le tronc cérébral à différents niveaux de bruit, puis type de bruit, il faudra évaluer tout ça. Propriété numéro 4, l'AFFR peut témoigner de ce phénomène de démasquage binaural. Phénomène de démasquage binaural dont je vous ai explicité la version psychoacoustique. Et on enregistre l'AFFR au stimulus seul. On a une belle amplitude. Le stimulus est donné dans les deux oreilles et masqué par le bruit dans les deux oreilles, l'amplitude de l'AFFR s'effondre. On met le bruit en opposition de phase entre les deux oreilles, l'amplitude de l'AFFR récupère, et elle récupère également, quoique moins, si c'est le signal que l'on met en opposition de phase. Donc l'AFFR peut donner un équivalent, peut fournir un équivalent électrophysiologique du phénomène de démasquage binaural. Maintenant, est-ce que ceci témoigne déjà du percept ou simplement de l'encodage de l'indice qui est nécessaire pour, plus loin dans le tronc cérébral, dégager le percept, c'est-à-dire avoir un seuil abaissé? On a vu que dans le tubercule quadrijumeau des animaux, il y avait des neurones qui avaient un seuil abaissé. Chez l'humain, évidemment, on ne sait pas trop. Mais ce genre d'expérience, qui très intelligemment a utilisé une autre règle de groupement primitif, qui est que quand il y a des éléments acoustiques qui se suivent, qui diffèrent en fréquence, AB, 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 avec A ayant une fréquence plus basse que B, si l'intervalle de fréquence entre A et B est faible, on entend une seule source, un seul flux auditif avec un rythme de galop, avec la fréquence qui change. Si au contraire, la distance fréquentielle est grande entre les différents éléments, on entend deux flux auditifs qui se déroulent, deux sources auditives. Et pour certaines valeurs d'écartement fréquentiel, la perception, après un certain temps, quelques dizaines de millisecondes où il faut que le cerveau s'habitue à la situation, la perception devient bistable. C'est-à-dire qu'alors que le flux de stimuli est tout à fait constant, identique, spontanément et au hasard dans le temps, le sujet perçoit un seul flux, S1, et puis brutalement, son percept passe à la perception de deux flux, S2, puis repasse à S1, et donc vous voyez les courbes individuelles qui oscillent entre la perception d'un ou de deux flux et la moyenne qui tourne autour de la moitié. Alors ça, c'est vraiment très intéressant puisque le stimulus est identique, mais le percept change. Et donc, les auteurs ont enregistré la FFR évoquée par ces triplets. Ici, il s'agit de triplets ABA, 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 qui se répètent en fonction de ce que le sujet codait comme étant son percept. J'entends un flux ou j'entends deux flux. Et ils ont séparé les FFR moyennés en fonction du percept du sujet, le stimulus étant le même. Le scalogramme ici vous montre, au cours du temps, essentiellement la fréquence des stimuli, A, B, fréquence plus élevée, A. Et ici, vous avez un scalogramme donc, différentiel entre la FFR évoquée dans la condition S2, j'entends deux flux, moins la condition S1. Et vous voyez, de manière tout à fait significative sur l'échelle des scores Z, au moment du deuxième A du triplet, apparaître une différence significative. Ce qui veut dire que la modulation de la FFR est bien liée au percept, puisque le stimulus, lui, n'a pas changé. Et les auteurs ont aussi mesuré, c'est pour ça que vous en touchez deux mots tantôt, les potentiels évoqués de moyenne latence, ceux qui démarrent après le tronc cérébral et qui projettent entre le thalamus et le cortex. Ces potentiels évoqués auditifs de moyenne latence, eux aussi modulés par l'état perceptif du sujet. Et quand on regarde dans le temps lequel des deux est modulé le premier, eh bien, c'est le potentiel de moyenne latence qui est modulé par le changement d'état perceptif avant la FFR. Ce qui veut dire que si la FFR change, c'est à cause des voies efférentes qui, pilotées par les centres supérieurs, se mettent à modifier le fonctionnement du tronc cérébral, puisqu'on détecte le changement de percept plutôt au niveau des projections thalamo-corticales qu'au niveau du tronc cérébral lui-même. Et donc, nous avons la chance d'avoir l'auteur principal de cette publication dans l'audience. Donc, si je dis des bêtises, il pourra me corriger. Donc, ces auteurs ont étudié les performances de localisation spatiale dans les trois dimensions, avec des haut-parleurs en haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite, et ont enregistré en parallèle avec donc, ces performances, la performance idéale serait une diagonale, et puis ici, l'échelle colorée vous donne le pourcentage de réponses correctes. Donc, pour chacune des positions, on mesure le pourcentage d'identification correcte du haut-parleur. Et ils ont mesuré chez ces sujets le bout du système efférent dont le professeur Petit vous a parlé, puisque ce système efférent, sa partie olivo-cochléaire, va moduler les cellules ciliées externes et la réponse acoustique des cellules ciliées externes que sont les auto-émissions acoustiques. On peut donc tester la force, l'efficience de ce système efférent en mettant un bruit contralatéral dans l'oreille contralatérale et en mesurant une réduction de l'amplitude de l'auto-émission qui est en moyenne de 1 dB, 1 dB et demi, qui est tout à fait mesurable. Alors, quand ils ont étudié, donc, lors de ces performances, ils ont mis en corrélation la différence de performance, performance optimale, moins la performance la plus mauvaise au niveau du rapport signal-bruit le plus mauvais, parce que les mesures ont été faites à différents niveaux de rapport signal-bruit, ils ont trouvé une corrélation significative entre la force du système, l'efficacité du système efférent, l'amplitude de la réduction des auto-émissions et le niveau de performance. Et cette corrélation significative se poursuivait au sein des rapports signal-bruit individuels pour les rapports signal-bruit les plus difficiles, les plus défavorables, les plus mauvais. Et donc, revenant à ce que le professeur Petit disait tantôt, ce système efférent dont on a vu qu'il vient moduler l'encodage de la perception de la parole dans le tronc cérébral s'exerce effectivement jusqu'à la cochlée, va jusqu'à modifier le conditionnement du signal mécanique dans la cochlée et participe à l'amélioration de l'écoute dans le bruit, à l'amélioration de la compréhension dans le bruit. Alors, il y a de nombreuses études qui rapportent comment se comporte la FFR, en général évoquée par des syllabes, le « da » étant très souvent utilisé, comment il se comporte dans le bruit. Ici, chez des enfants de 8 à 14 ans, où on compare des enfants qui ont des difficultés de compréhension dans le bruit, en noir, avec des enfants qui ont des performances tout à fait normales. Et vous voyez... La FFR évoquée par la syllabe, qui comporte une activité liée au démarrage du stimulus, un peu l'équivalent de l'onde 5 des ABR, une activité un peu complexe qui correspond à la transition des formants entre la consonne et la partie stable de la voyelle, et puis la partie stable de la voyelle. C'est quand on étudie les différents pics dans la partie de la transition, qui est manifestement la plus fragile par rapport au bruit et qui est en psychoacoustique la partie du son qui est la plus difficile à identifier, on constate qu'il y a quelques pics qui, chez les enfants qui ont des difficultés de compréhension dans le bruit, quelques pics qui ont des latences significativement plus élevées que les enfants à performance tout à fait normal. Donc, on trouve dans le timing fin de certains pics de la FFR, en particulier dans la période de la transition, des signes d'anomalie de précision temporelle tout à fait subtiles, parce que ces enfants-là ont par ailleurs des potentiels évoqués par le clic normaux, des anomalies tout à fait subtiles de précision temporelle. Et chez nos aînés, dont on parlait tantôt, l'effet de la presbyacousie, on trouve aussi la même chose. Si on a la chance d'avoir des séries avec en fait, une audition en termes de seuil, d'audiogramme qui est à peine perturbée, des potentiels du tronc dont on ne peut pas dire qu'ils soient franchement anormaux, mais on trouve au niveau de la FFR le même genre d'anomalies essentiellement dans la période de la transition, allant de pair aussi avec une petite réduction d'amplitude des pics traduisant le verrouillage de phase au niveau de la voyelle. Alors l'hypothèse est que, en tout cas avec l'âge, peut-être aussi chez les enfants, mais en tout cas avec l'âge, il y a un jitter, une espèce de tremblotement de la précision temporelle des influx nerveux dans le temps qui fait que la précision temporelle se dégrade et du coup le verrouillage de phase se dégrade et l'amplitude des réponses se dégrade. Ce qui a été évalué en simulant le jitter, en créant donc cette imprécision temporelle au niveau du stimulus lui-même, donc, et en enregistrant l'AFFR, voilà son analyse fréquentielle avec les différents pics de fréquence chez des sujets jeunes, sans aucune modification du stimulus, à un niveau de tremblotement, d'imprécision temporelle du stimulus qui est supposé simuler ce qui se passe dans le système nerveux de pathologique, et vous voyez une tendance à la réduction de l'amplitude des pics qui est beaucoup plus marquée si le jitter est augmenté, et la même chose donc chez des sujets, même expérience chez des sujets âgés, mais qui partent déjà d'amplitude effondrée et chez qui l'adjonction du jitter a beaucoup moins d'effet parce que déjà l'hypothèse est qu'ils ont un jitter interne, une imprécision temporelle interne qui est telle que le fait de secouer un peu le stimulus aggrave les choses de manière moins manifeste. Autre intérêt de la FFR, c'est qu'il y a de nombreuses publications là-dessus, je vous résume cela, et elle peut mettre en évidence une plasticité induite par l'expérience. Si on étudie de nouveau les paramètres de suivi de glissement de la fréquence fondamentale, donc dans un mot où on fait évoluer la fréquence fondamentale glottique pendant la production du mot, et qu'on compare trois populations, les sujets normaux qui ne sont pas musiciens, qui ne parlent pas une langue à ton, et les musiciens considérés donc comme experts, et des sujets qui ont des difficultés de compréhension dans le bruit, eh bien, vous voyez que les musiciens ont des amplitudes spectrales meilleures que les sujets tout venant et que les sujets handicapés ont des amplitudes plus faibles et que ça se traduit dans leur niveau de performance. Les musiciens ont les performances de poursuite de la fréquence fondamentale plus précises que les sujets tout venant, qui eux-mêmes ont des résultats bien plus précis que les sujets handicapés. Alors ça, c'est évidemment tout à fait intéressant dans la perspective de monitorer, de suivre au long cours les efforts et les techniques de remédiation que l'on peut mettre en œuvre chez ces sujets. Et bon, je passe parce que nous n'avons pas le temps, mais évidemment, l'expertise des musiciens est une expertise qui a été développée sur le long terme, une plasticité qu'ils vont garder et qui est à long terme. Mais on peut aussi, en jouant sur des effets de contexte, sur des tâches, des écoutes ciblées qui se font dans des effets de contexte différents, démontrer que l'encodage des sons de parole dans le tronc cérébral est sensible à une plasticité à court terme. Et à Bruxelles, qu'est-ce que nous avons fait sur le sujet ? Nous avons abordé la question d'une manière un peu différente que cette littérature tout à fait abondante qui utilise essentiellement les sons de parole, parce qu'il reste, il faut bien le dire, l'incertitude sur le ou les générateurs de la FFR que nous avons, bon, pour notre pratique, à travailler essentiellement sur des enfants, et beaucoup d'enfants difficiles qui ne peuvent être examinés que pendant le sommeil, et qu'on sait bien que le sommeil va modifier les réponses. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé en utilisant le plus simple des sons complexes, c'est-à-dire deux fréquences pures mélangées, qui vont donner ce signal fait d'une enveloppe et d'une structure temporelle fine. Et dans la manière dont dans la littérature on recommande d'extraire l'enveloppe et la structure temporelle fine, je vous l'ai montré tantôt, c'est d'évoquer l'AFFR en polarité opposée, puis de faire la somme des deux polarités opposées, ce qui va éliminer la structure temporelle fine, extraire l'enveloppe, et la différence va éliminer l'enveloppe et isoler la structure temporelle fine. Mais vous voyez, dans le spectre de ces réponses, oui, on a le signal de l'enveloppe, mais aussi d'autres bandes fréquentielles qui peuvent correspondre à la distorsion harmonique de l'enveloppe, parce que l'enveloppe, c'est quand même pas une... Pardon, l'enveloppe, c'est ici, c'est quand même pas une sinusoïde pure, donc il y a une distorsion harmonique. Et dans la structure temporelle fine, on a les deux primaires, les deux sons qu'on a utilisés pour stimuler. Et on a un produit de distorsion, probablement d'origine cochléaire, mais pas exclu, une partie vienne du système nerveux, et un deuxième produit de distorsion d'origine cochléaire. La cochlée, vous qui êtes familier de ce genre de cours, vous l'avez sûrement déjà entendu, la cochlée fonctionnant de manière hautement linéaire et ajoutant des composants fréquentiels à ceux qu'on lui envoie. Alors, ce mélange de fréquences, évidemment, ne facilite pas l'analyse de l'origine des réponses. Et donc, la technique qui a été utilisée est celle des phases tournantes, où on va, dans un algorithme assez complexe, utiliser deux paires de stimuli en opposition de phases. Pour chaque paire de stimuli, on va faire glisser la phase des deux composants d'une valeur qui aurait été calculée dans une matrice de rotation, de manière à éliminer sélectivement tous les composants fréquentiels sauf un, ce qui est permis par le fait qu'on peut prédire la phase d'un composant fréquentiel donné à partir de son équation. L'enveloppe, c'est F2, la fréquence supérieure, moins F1, ce qui permet de prédire quelle sera la phase de l'enveloppe. Le produit de distorsion principal, c'est 2F1 moins F2. À partir de cette équation, on peut prédire quelle sera la phase du composant spectral correspondant à 2F1 moins F2. Et sur cette base-là, on peut, donc comme il est schématisé ici, là vous avez en fait l'onde 5 des potentiels du tronc qui est évoquée par le début du stimulus et qui vient contaminer le début de la FFR. Et là vous avez l'enveloppe. Et bien après traitement, vous isolez l'onde 5 et vous isolez l'enveloppe. Donc vous pouvez tout à fait nettoyer l'un de l'autre et nettoyer les composants l'un de l'autre. Et donc voilà le résultat sur une FFR enregistrée chez un sujet humain normal. Voilà l'onde 5 des potentiels du tronc. Voilà l'enveloppe, un seul pic de fréquence. Voilà le composant de distorsion harmonique de l'enveloppe, un seul pic de fréquence. Voilà le composant de distorsion harmonique supérieure. Il n'y a plus beaucoup d'activité, rien de significatif. F1, la fréquence inférieure, F2 et les deux produits de distorsion a priori d'origine cochléaire. Et vous voyez que chaque spectre ne contient qu'un seul élément. Et donc, disposant du signal isolé dans le domaine temporel, il va devenir beaucoup plus facile de faire des études là-dessus. Mais comme vous le voyez, cette manœuvre, évidemment, n'améliore pas l'amplitude des réponses qui restent largement inférieur au microvolt, donc ça reste des signaux délicats, il faut bien le dire. Et une première chose à laquelle on s'est attaqué et on s'attaque, c'est de déterminer est-ce qu'il y a des générateurs séquentiels ? Est-ce que dans cette FFR, il y a un premier générateur, par exemple le noyau cochléaire dans le tronc cérébral, puis un deuxième qui serait l'olive qui se met en route, puis un troisième qui serait le tubercule quadrijumeau inférieur qui se met en route et qui donc prolongerait la réponse. Alors, à partir du moment où on isole les réponses, comme je vous l'ai montré, il devient beaucoup plus facile de faire des analyses de phase de la réponse, se disant que si j'ai une première FFR qui se met en route, puis une deuxième parce que l'activité arrive à un deuxième noyau qui s'active et qui crée sa FFR, on va avoir à ce moment-là une rupture de phase. On va avoir une interaction au niveau des phases qui va créer une rupture de phase. C'est bien ce qui se passe ici. On a le démarrage du signal, une partie stable de relation de phase. L'histogramme montre que les phases sont bien concentrées. Puis après 2 millisecondes, une rupture, puis une période tout à fait stable, suivie d'une deuxième rupture, et une petite période stable. Et le moment où cette rupture intervient, qui est de l'ordre de 2 millisecondes après le démarrage de la FFR, correspond à la prolongation de la durée de la réponse. Donc ici, chez les sujets adultes éveillés, vous voyez les histogrammes, ils sont en tête bêche parce qu'on a appliqué deux méthodes complémentaires qui montrent essentiellement la même chose. Vous avez une prolongation par rapport à zéro, qui est la durée du stimulus. Vous avez une prolongation de la durée de la réponse de 2 millisecondes qui correspond à l'apparition de cette rupture de phase. Donc effectivement, il y a une deuxième FFR qui s'est mise en route et qui, du coup, a fait que la FFR globale a duré 2 millisecondes de plus que le stimulus. Par contre, chez les enfants endormis, la réponse n'est pas prolongée et il n'y a pas de concentration de rupture de phase. Il y a des ruptures de phase aléatoires, comme chez les adultes, qui sont liées au bruit, au bruit de la mesure, mais au niveau de la population, il n'y a absolument rien de systématique. Donc, influence de l'état de veille-sommeil, plus que de l'âge des enfants, parce qu'ils avaient quand même des âges fort étalés. En tout cas, l'hypothèse principale est qu'il s'agit d'un effet de l'état de veille-sommeil. Et effectivement, en tout cas chez l'adulte éveillé, des réponses qui se succèdent l'une à l'autre. Alors, pour étudier ça d'un peu plus loin, on a, d'un peu plus près maintenant, on a utilisé une dérivation entre un canal vertical au sommet du crâne et la nuque et oreille-oreille, qui sont des axes d'enregistrement connus pour séparer le plus possible les activités périphériques cochléaires et nerfs des activités du tronc cérébral pour différentes fréquences d'enveloppe de la FFR, l'onde 5 isolée et l'enveloppe, dont chez des enfants endormis, vous voyez la durée qui ne change pas et la latence qui évolue, comme on peut s'y attendre, en fonction de la fréquence de l'enveloppe, puisque pour avoir une fréquence d'enveloppe plus élevée, on a utilisé des fréquences de stimuli plus élevées également, donc on se rapproche de la base de la cochlée et la latence diminue. Dans le canal vertical, même effet, mais avec un décalage de latence, avec dans le canal vertical une latence qui est plus élevée que dans le canal horizontal, donc effectivement une FFR venant de deux endroits distincts. Quand on étudie l'évolution de latence de la FFR dans le canal horizontal en fonction de la zone cochléaire calculée, en fonction des fréquences qu'on a utilisées pour stimuler comme étant le point de départ fréquentiel, la zone tonotopique d'origine, on voit qu'on tombe en plein milieu de diverses estimations de l'évolution de la latence de la réponse du nerf cochléaire chez l'humain par différents types de stimulus ou par modélisation. Ce qui nous fait dire, plus quelques observations anecdotiques, mais d'enfants qui avaient des lésions sévères du tronc cérébral et qui n'avaient de FFR que, dans que à courte latence, que cette FFR princeps vient du nerf cochléaire. Donc, bien plus en périphérie que le tubercule quadrijumeau inférieur. Quand on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du canal vertical, qui est décalé d'environ 2 millisecondes, qui est 2 à 3 millisecondes, on voit que la précision du verrouillage de phase qui est mesurée dans le canal vertical en noir est meilleure, significativement meilleure, que ce qui est mesuré dans le nerf, et le niveau de distorsion harmonique également. Ce qui rappelle furieusement ce qui a été montré dans la qualité du verrouillage de phase entre le nerf et le noyau cochléaire, avec une amélioration de la qualité du verrouillage de phase dans le noyau cochléaire, qui va de pair avec un accroissement de la distorsion harmonique, parce que quand on accroît la précision temporelle, on accroît mathématiquement, je dirais, la distorsion harmonique. Et donc, tout ça nous conduit à de nouvelles perspectives, qui est, en tout cas dans ce type de population d'enfants endormis, de pouvoir apprécier la qualité du verrouillage de phase dans le nerf cochléaire et puis comment il est traité au niveau du noyau cochléaire, donc de voir comment le traitement de l'information est amélioré au premier niveau du relais du tronc cérébral, et puis il faudra évidemment s'attaquer à la suite, mais enfin voilà l'idée de cette approche-là qui est tout à fait complémentaire et différente de ce que je vous ai présenté auparavant. Alors, en ce qui concerne la FFR au niveau des applications cliniques, les malheureux cliniciens qui voudraient se mettre à l'employer sont confrontés à l'embarras du choix. Il y a une recherche académique tout à fait exponentielle dans le nombre de publications, une recherche clinique, en tout cas au niveau de cohorte, qui met en évidence des différences systématiques entre populations. On est encore loin du compte pour arriver à un diagnostic individuel. Quel stimulus choisir, quelles conditions d'enregistrement, quel bruit utiliser si on veut tester la résistance au bruit, mesures dichotiques, monotiques, etc. Donc tout ça reste très, très largement ouvert. Les techniques d'analyse sont très variées. Il y a de multiples paramètres qu'il est possible d'enregistrer, mais on ne peut pas tous les enregistrer au risque de courir, de faire des erreurs par comparaison par trop multiples. Et il y a des paramètres de nature temporelle, spectrale, spectro-temporelle. Bon, donc, la question de la méthodologie à définir doit aussi s'adapter à la question clinique posée. Les effets maturationnels ne sont pas encore bien définis. Et ça reste des réponses submicrovoltées, sensibles aux effets de veille et de sommeil. Donc il faut maîtriser tout ça. Il y a de toute évidence encore beaucoup de choses à faire, mais c'est effectivement très, très prometteur. Donc en conclusion, eh bien oui, le tronc cérébral et la manière dont nous pouvons appréhender comment le tronc cérébral encode le signal de parole, c'est tout à fait pertinent parce que le tronc cérébral joue un rôle dynamique en coopération avec le système efférent et avec les centres supérieurs. Et le code neural, pour le peu que nous pouvons enregistrer en surface, fournit des paramètres pertinents, témoignant de certains déficits, notamment liés à la précision temporelle, donc pouvant, on l'espère, conduire au diagnostic individuel, témoignant d'une plasticité à long et à court terme, évidemment fort intéressant en termes de monitorage, de réadaptation, et c'est donc bien un domaine dans lequel les anglo-saxons diraient « This is there, there is gold to be mined ». Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail et je voudrais vous remercier de votre attention et quand même aussi remercier les collaborateurs Federico Lucchetti, qui est le physicien maître des phases tournantes et de la programmation de ces acquisitions, Paul Avant et Fabrice Giraudet, avec qui les discussions ont lancé l'idée d'utiliser cette technique des phases tournantes, Axel Kalkus, qui est spécialiste de la perception dans le bruit, du masquage informationnel et passionné de FFR, et Cécile Collin, spécialiste de l'évaluation neurophysiologique de la perception de la parole et qui est la gardienne de ma bibliographie. Voilà, je vous remercie.